Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai perdu l'habitude de prendre la parole en public, donc tout le protocole passera. On m'a demandé, Didier m'a demandé de dire quelques mots sur les origines et la façon dont les choses s'étaient passées. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, des choses amusantes, des choses moins amusantes, bref. En réalité, tout a commencé quelque part en 1980 par une délégation d'un certain nombre de personnes qui, dans la suite de Pop Physique, Pop Santé, qui avait une certaine réussite sur la place d'Armes, sont venus me voir pour me dire, mais enfin, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à voir si on ne peut pas rendre tout ça plus permanent et de façon plus matérielle, avoir un lieu où on ait une action plus longue que l'action qu'on a dans cette semaine. Alors j'ai oublié, je pense que j'en ai oublié, mais à coup sûr, il y avait Christian qui menait la délégation et qui était une cheville ouvrière du système. Il y avait Michel Bourdet, j'en suis certain, Jean Jackson, Bernard Bourdet, Jean Jackson, à coup sûr, peut-être de nos dons, je ne suis pas certain, je ne me souviens pas. Vous étiez une dizaine. Hein, ils étaient déjà venus en nombre, et moi j'étais tout seul. Ceci étant, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de me convaincre de ce qu'ils faisaient, parce que le résultat déjà de ce qu'on voyait était intéressant. Mais de là à passer à un bâtiment, une structure, le fonctionnement, ça me posait quand même quelques questions, dans une époque où il y avait déjà des tas de choses. Ben oui, Bernard, tu es là, excuse-moi. Tu vois, mais c'est l'âge. Il y avait des tas de choses qui étaient déjà engagées. Je rappelle qu'on avait déjà dans les cartons la médiathèque, Rivaux, etc. Et donc, budgétairement, et comme j'ai toujours été connu pour serrer un peu les boulons, je ne savais pas très bien comment j'allais présenter ça. Bon, mais ils m'ont assez convaincu. Et donc, j'ai fait une présentation assez rapide, assez sommaire en municipalité. Puis après, ils sont venus s'expliquer plus longuement. Et nous avons décidé que nous allions essayer de monter un programme et de voir ce que pouvait être un centre permanent. Alors, ça n'a pas toujours été facile. On a mis du temps, on a réussi à définir quelque chose, à étudier des partenariats, et puis ça a mis à peu près 4 ans, cette première phase, hein, si mes souvenirs sont exacts. Et alors nous sommes tombés au moment où nous allions nous lancer et où nous allions prendre les premières délibérations, nous sommes tombés sur un phénomène important qui a pris une grande importance par la suite. C'est que le département et le président Monory étaient au même moment en train d'imaginer le Futuroscope. Et alors, je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, il m'a convoqué, et parce que, au cours d'une réunion du Conseil général, j'avais émis l'idée qu'on pourrait voir si ces deux idées n'étaient pas complémentaires. Et il m'a convoqué pour que nous parlions, et il m'a dit, de toute façon, ça ne pourra pas marcher comme ça, parce que vous avez la folie des grandeurs, vous partez sur un bâtiment qui était déjà chiffré, tu t'en souviens, je pense, vous allez faire quelque chose de l'ordre de 35 millions, et nous, à Futurama, c'était comme ça que ça devait s'appeler à l'époque, nous envisageons un investissement de l'ordre de 7 millions. Nous, on a terminé autour de 40. Eux, ils ont terminé autour du milliard, mais c'est plus du tout la même chose. Et donc, on a continué comme ça. Et c'est vrai, tu viens de le rappeler, toutes les collectivités n'ont pas participé de la même façon. Avec l'État, il faut reconnaître qu'avec l'époque à l'État, les ministres concernés aussi bien à la recherche qu'à la culture étaient tout à fait dans le mouvement et dans le système, nous ont aidés, bien évidemment. Et on a eu des accords relativement rapides. La région s'est fait tétir l'oreille, mais elle est venue assez rapidement. Et par la suite, elle s'est engagée, monsieur le vice-président d'alors, elle s'est engagée dans le fonctionnement à travers l'actualité. Mais avec nos collègues du département, effectivement, ça a été un peu plus long. Voilà un peu une première partie. Alors, il y a eu des moments amusants et tristes et durs. Là, imaginez-vous que nous avons lancé le concours d'architectes. Et dans le concours d'architectes, les gens qui étaient là ont éliminé une équipe qui s'appelait le bureau d'architectes Monge à Paris, qui était un Grand Prix de Rome, et qui en même temps était celui qui avait rénové le musée de l'autre côté de la rue. Alors, la direction régionale des affaires culturelles, mon directeur général des services techniques, ont défilé dans mon bureau et m'ont dit « Mais monsieur le maire, ça va pas. Comment pouvez-vous concevoir un concours d'architecte en éliminant monsieur Monge alors qu'il a parfaitement réussi de l'autre côté de la rue, que c'est un architecte connu sur le plan européen, voire mondial, et vous, à Poitiers, à un jury de 8, vous décidez « Monge, zéro, ça n'existe pas, on ne veut pas voir Monge ». Et donc, j'ai un peu tiré sur les textes. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, la jurisprudence étant tellement sévère que j'aurai peut-être quelques ennuis, je ne sais pas. En tirant sur les textes et avec l'aide du directeur général de l'époque, pauvre M. Lambert qui n'est plus là, on a tiré les ficelles et on a trouvé une solution pour réintroduire M. Monge dans le jury. Et quand on a dépouillé les offres et les projets, eh bien, à une très, très large majorité, puisqu'à l'époque, il a dû avoir 70 à 75% des voix du jury, c'est M. Monge qui a gagné le concours. Avec l'ennui, Didier a sans doute fait exprès de l'exposer, parce que là, on a dit, le maire, il est fou d'accepter un permis pareil, c'est une honte, cette bulle au milieu des bâtiments du Moyen-Âge et puis de la Renaissance, ça ne va pas. Alors, c'est ce que je leur faisais valoir. Je leur disais, de toute façon, un bâtiment du 17e, il était incongru dans une rue du 15e. Et donc l'architecture, c'est quand même l'évolution de la ville. Oh oui, mais là, les gens disaient, c'est coton. Hein. Et bon, alors, c'est passé quand même. Ça m'a valu beaucoup de discussions, d'algarades, j'en ai entendu. Et alors, on doit reconnaître que ce n'est pas achevé, parce que M. Monge n'a pas pu l'achever. M. Monge avait l'idée que ça serait une espèce de fontaine permanente à l'envers. C'est-à-dire qu'il avait imaginé qu'il enverrait de l'eau par le haut, qui serait récupérée en bas et qu'on aurait une espèce d'enveloppe d'eau qui coulerait en permanence et qu'effectivement, lui-même, ça l'avait choqué. Il n'avait pas pu l'enterrer davantage. Parce que le sol, si on s'était amusé à faire péter la roche, je ne sais pas ce que serait devenu la cathédrale. Et donc, il a fallu faire des compromis. Et le bureau d'études, par la suite, n'a pas voulu. Parce qu'il a dit à M. Monge, le bureau d'études a dit, nous, on est incapables d'assurer l'étanchéité totale sur une période de 20-25 ans. On n'est pas capable, dans une fontaine à l'envers comme ça, de vous assurer l'étanchéité de tout ça. Et donc, il a fallu que ça reste comme ça. Monsieur Monge a proposé des tas de solutions, et l'architecte des bâtiments de France, qui s'est senti conforté par toutes les récriminations des habitants, m'a dit, monsieur le maire, c'est terminé, on mettra simplement une peinture assez neutre, et puis, on plantera le plus de choses possibles au pied, tout le tour, et on espère que ça finira par rentrer dans l'environnement. Bon, alors, certains, beaucoup ont rêvé la faire sauter, mais enfin, si on le faisait sauter, le planétarium, quand même, ça ferait une activité qui disparaîtrait, ça serait peut-être un peu délicat. Voilà quelques anecdotes. Il y en a une autre qu'on ne peut pas passer sous silence, parce qu'on doit bien dire nos échecs aussi. C'est que malheureusement, Monsieur le Président, nous avions l'association, et puis avec la participation des élus, a recruté un premier directeur qui n'avait pas tout à fait compris, je crois, le sens de la démarche, que nous avons réussi à faire partir avec beaucoup de difficultés, parce qu'il s'accrochait, en nous laissant une ardoise pas négligeable, à tel point que quand je suis parti en 2008, 20 ans après presque, monsieur le directeur peut dire qu'on n'avait pas encore tout à fait reconstitué les fonds propres. Il devait encore manquer 70 000 euros. C'est pour dire qu'en 20 ans, on en avait récupéré, mais il y avait encore du manque à gagner dans la maison. Alors, effectivement, je n'imaginais pas, mais un beau jour, j'ai vu arriver dans mon bureau le directeur des services financiers et qui m'a dit, avec qui je m'entendais bien, on s'engueulait pour préparer le budget, mais on s'entendait bien et on se tutoyait. Enfin, je ne tutoyais pas tous les employés municipaux, mais j'en tutoyais quelques-uns. Et puis il me dit, Jacques, je viens de présenter ma candidature à la direction de mon défense. Alors là, j'étais assis, mais j'allais dire, il aurait pu m'asseoir. Parce que le voir passer de tout ce qu'il faisait en technique financière, et il était bon, dans l'animation de la maison, je lui ai dit, mais Didier, tu... Il m'a dit, fais-moi confiance, je le sens. Hein, tu te souviens? Tu m'as dit, je le sens bien. Mais j'ai dit, maintenant, si tu le sens et tu le sens bien, il va falloir que tu ailles convaincre l'association. Ce qu'il a sans doute fait, puisqu'il est encore là aujourd'hui. Et je pense que personne n'a en s'en plaint. Alors ça, c'est aussi une autre anecdote. Voilà. Alors après, ça s'appelait devenir. Manque de peau, le directeur qui avait trouvé cette solution de venir n'avait pas vu que quelque part en France, je ne me souviens pas, à Lyon, je ne sais pas où. Saint-Étienne. Hein, il y avait déjà une association qui avait déposé ce nom et qui l'avait fait labelliser. Résultat des courses, on n'avait plus le droit de s'appeler devenir. Alors, je ne sais plus à l'époque comment c'est arrivé, Mendès France, mais il y a eu des gens qui y ont pensé, et moi, c'était loin de me déplaire, vous en doutez bien. Et donc, on a pris la décision de Mendès France. Alors, j'en terminerai là, je veux dire un mot, sans gêner les orateurs suivants, parce que peut-être qu'ils l'évoqueraient, mais moi, je tiens à dire, au-delà de tout ce qu'on dit sur Mendès France, quelque chose de Mendès France que très peu de nos contemporains connaissent. Si vous avez un hôpital public moderne, si vous avez un hôpital public efficace, et les vieux poitevins comme moi savent faire la différence entre ce qu'était l'Hôtel Dieu et aujourd'hui, c'est à Pierre Mendès France qui le doivent, poursuivi d'un peu d'ailleurs, par le gouvernement Guy Mollet en 1956. C'est Mendès France qui, en 1954, devant ce qu'étaient les hôpitaux français, a eu l'idée de réunir une grande commission avec un certain nombre de professeurs éminents, parmi lesquels Jean Bernard, le professeur Debré et quelques autres que j'oublie, mais vous le direz ultérieurement. Et ce sont ces groupes d'études qui a proposé à l'époque... à Mendès France et à Maurice Faure, qui devait être son ministre, je crois, l'idée qu'il fallait intéresser les jeunes médecins à une carrière différente de celle qu'on leur proposait à l'époque entre la faculté de médecine et l'hôpital. Et c'est eux qui ont inventé la biappartenance des hospitaliers, ainsi que quelque chose qui est très décrié aujourd'hui, mais à l'époque, ça a eu son utilité, et il y a encore quelques médecins qui l'utilisent, c'était la partie privative de leur service avec un certain nombre d'heures par semaine. Et c'est ça qui a sauvé l'hôpital. C'est ça qui a fait que les premiers médecins qui ont lancé Poitiers sont arrivés. Les barbiers, les sudres, tous ces gens-là sont arrivés à cette époque-là. Et grâce à ça, alors ça a été un moment délicat, parce que rien n'avait été voté en 1958. Et on a dit les lois de Bray. Il n'y a jamais eu de loi de Bray. Ce sont des ordonnances du général de Gaulle. Parce que le consortium des professeurs qui avait imaginé le schéma, connaissant les relations du professeur Debré, son fils et le général, ont convaincu le professeur Debré de convaincre son fils que c'était une solution. Vous vous rendez compte? Une solution comme ça, imaginée par des gens de gauche, de Gaulle n'avait pas du tout envie de faire une loi là-dessus. C'est la raison pour laquelle il a fini par plier à ce qu'expliquait Debré, père et fils, avec l'aide des autres, et il a fait des ordonnances. Ça devait être des ordonnances de juillet 58, quelque chose comme ça, si mon souvenir est exact. Faudrait le... Et c'est là que l'hôpital a démarré. C'est là que l'hôpital est sorti du traditionnel hôtelier que vous avez. Je peux raconter une anecdote, et j'arrêterai, puisque la plupart de ceux qui ont pris part à cette histoire sont décédés, donc ça ne peut vexer que leurs descendants, mais à la limite... À l'époque, les enseignants de la fac, dont le premier, eh bien, c'était d'ailleurs des enseignants remarquables. Il y en avait un, toute la génération de médecins de mon âge ne parlait que par lui en disant « notre maître, notre maître ». Mais notre maître, il était leur maître jusqu'à midi pour enseigner. Il passait quelques instants avec eux à l'hôpital pour voir quelques malades et direction la clinique jusqu'à 18h. Et il n'y avait plus rien à l'hôpital. Et l'hôpital vivait comme il pouvait. C'était ça en 60. 60-62. Ça a duré ici jusqu'à l'arrivée des premiers profs que vous avez connus. Et donc... Je crois que c'est vraiment quelque chose, au-delà de ce qui sera dit, que moi je tenais à dire, parce que sincèrement, c'est un aspect de Mendès France. Mendès France et la recherche, Mendès France et l'enseignement, c'est quelque chose qui est parfois complètement oublié et peu connu. Et puis après tout, c'est normal que 58 et 50, ça fait 2008, oui, c'est ça. C'est vrai que 50 ans après, on n'y pense plus beaucoup. Comme personne ne parle plus de salaire différé, tout le monde parle de charges sociales trop élevées. Vous voyez que j'ai gardé encore des petits trucs pour la fin. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et à toute cette équipe, on leur doit vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment eux qui sont les pères de notre hôpital d'aujourd'hui. Voilà, merci.